Oui, Seigneur, nous sommes ici ce matin, pas vraiment par choix, Seigneur, c'est vraiment par appel. C'est toi qui nous as un jour touchés par ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous as révélé l'horreur de notre péché et la sainteté de ton Fils, Seigneur, qui, lui, a donné sa vie précieuse pour nous, Seigneur. Et un jour, nous avons compris que la gloire te revient, que ton Fils précieux Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous est la réponse. La réponse à notre problème de péché, Seigneur. Tu nous as pardonné totalement, de A à Z, passé, présent, futur. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là pour te célébrer, pour chanter des chants comme nous venons de chanter, Seigneur, sachant que tu nous prépares ce repos céleste que nous attendons, Seigneur, précieusement. Seigneur, merci pour cette promesse, merci pour l'éternité, la gloire qui nous attend, pour la présence à ton côté pour toute l'éternité. Seigneur, nous languissons pour ce jour. Mais nous n'y sommes pas encore. Et donc ce matin, Seigneur, et nous te demandons de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire face à la semaine prochaine, Seigneur. Être des témoins fidèles pour Jésus-Christ, là où tu nous as placés, que ce soit dans un lieu de travail, que ce soit à la maison, que ce soit peut-être quelqu'un est hospitalisé, Seigneur, peut-être quelqu'un est en prison et qui écoute par radio, Seigneur, il n'y a que toi qui sais. Nous te demandons que là où nous sommes, Seigneur, nous soyons fidèles jusqu'à ton retour. Bénis ta parole maintenant, Seigneur, et qu'elle nous parle profondément, tu connais chacun de nos besoins, nos joies, nos craintes, nos soucis, nos difficultés, Seigneur. Toi, tu peux prendre ce texte un peu particulier ce matin et l'appliquer à nos vies. Donc, nous te demandons de le faire par ton esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, écoutez, comme chaque dimanche, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans Exode chapitre 20. Et nous sommes au verset 13, et nous entamons aujourd'hui le sixième commandement, le sixième des dix commandements. Et donc, j'aimerais que nous le lisions ensemble. Exode 20 et le verset 13. Je lis. « Tu ne tueras point. » Moi, j'aime bien les versets courts, pas vous ? Celui-là, il est vraiment court. Tu ne tueras point. Alors écoutez, moi, je ne peux pas aborder ce verset et ce commandement sans penser à un événement qui s'est passé dans ma propre famille il y a juste 2 mois de cela aux États-Unis. C'est arrivé à mon neveu. Mon neveu, je crois qu'il doit avoir 20, peut-être 22, 23 ans par là. Et il travaille dans un... Je ne sais pas exactement comment on appelle ça ici, un courtier financier. Les gens peuvent amener leurs chèques et les encaisser. Et donc, c'est ce qu'il fait toute la journée. Et ce jour-là, ce jour en août, eh bien, il était en train de prendre son lunch à l'extérieur, comme ça se fait souvent aux États-Unis. En Californie, il fait toujours beau. Donc, il était dehors en train de manger son sandwich. Et là, deux hommes sont rentrés dans le magasin et ils pensaient que c'était des clients pour faire du business, quoi. Et alors, il les a vus rentrer, il pensait que peut-être la dame qui était toute seule à l'intérieur aurait besoin d'aide. Et donc, il a pensé normal de rentrer à l'intérieur, de cette banque. Et aussitôt qu'il est rentré, un des hommes s'est tourné, parce qu'il ne s'attendait pas que quelqu'un rentre derrière, et c'était en fait deux malfaiteurs qui voulaient cambrioler cette banque. Et donc, il a sorti un pistolet et il l'a braqué sur mon neveu, qui s'appelle Ryan. Et tout de suite, il lui a dit de se mettre par terre. Donc, il s'est mis par terre, il a mis son pied sur lui et il a braqué son pistolet sur son cou. Il a dit « ne bouge pas ». Pendant que son ami demandait à la caissière de lui donner l'argent, ce qu'elle a fait. Mais à un moment donné, et là où il y a eu un petit peu de confusion, ce braqueur qui avait le pistolet braqué sur Ryan a dit à son ami « Dépêche-toi et prends l'argent bleu ». Il l'a appelé bleu, c'était le nom de code. Le problème, c'est que Ryan, mon neveu, avait une chemise bleue, portait une chemise bleue, son uniforme. Et donc, il pensait que ce malfaiteur lui demandait à lui, Ryan, d'aller chercher l'argent. Donc, Ryan a essayé de se lever pour aller chercher l'argent. Eh bien, le malfaiteur a paniqué et il a tiré deux coups avec son pistolet. Le premier coup, et là j'ai l'histoire écrite, hein, donc c'est vraiment vrai, le premier coup est rentré dans le cou de Ryan, mais a rebondi contre son crâne et est sorti quelque part d'autre, je ne sais pas exactement où. Et puisqu'il avait les deux mains derrière son cou, le deuxième coup a traversé trois de ses doigts et les a éclatés. Alors tout d'un coup, maintenant, les malfaiteurs ont réalisé que c'était très grave. Ils sont partis en courant. Et Ryan, qui n'était pas mort, par la pure grâce de Dieu, est resté là jusqu'à ce que la police arrive. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il aurait dû mourir ce jour-là. Mais cette balle qui est rentrée dans son cou a rebondi contre le crâne et n'est pas rentrée dans le crâne. Il y avait en fait quatre hommes dans cette banque et un qui attendait dans la voiture. Ils se sont échappés, mais ils se sont tous fait prendre par la police. Trois d'entre eux ont reçu déjà, parce que c'est répétitif, hein, ce n'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça, 35 ans de prison ferme. Un, 25 ans, et l'autre, 10 ans de prison ferme pour un butin de $500. Bienvenue au monde de la violence d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Incroyable. Incroyable. On estime aujourd'hui à 520 000 meurtres par an dans le monde. Statistique de l'an 2000. Et 2/5 de ces meurtres sont des jeunes de entre 10 et 29 ans qui ont été assassinés par d'autres jeunes. 520 000 meurtres par an, moi j'ai fait mon petit calcul ce matin encore, ça fait 1425 meurtres par jour dans le monde. C'est des meurtres, hein, là, pas des décès, que des meurtres. Ça fait exactement 60 meurtres par heure, qui fait un meurtre par minute. À la fin de ce culte, il y aura eu entre 45 et 50 meurtres dans le monde. Dans le monde occidental, 90% des meurtres sont commis par des mâles et 74% des tués sont des mâles. Il y a un homme qui s'appelle, peut-être vous rappelez de ce nom, Brzezinski. C'était le directeur de la sécurité sous le président Jimmy Carter. Lui, il a dit que s'il devait décrire le XXe siècle, il décrirait le XXe siècle par deux mots. Méga mort. Méga mort. Brzezinski suggère que quatre hommes à eux seuls peuvent être blâmés pour 175 millions de morts. Hitler, Léline, Staline et Mao. Mais c'est incroyable. Cette statistique est plus grande que la population de l'Angleterre et la France ensemble. Et aujourd'hui, bien sûr, on pense aux meurtres qui ont été commis dans le monde d'aujourd'hui. On pense à l'Holocauste, bien sûr, Deuxième Guerre mondiale, alors au Cambodge, au Rwanda, au Soudan, des génocides. Vous allez voir, c'est incroyable ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Incroyable. Puis alors, c'est tout un autre domaine aujourd'hui, c'est la télévision. C'est vrai qu'on y pense, la télé, les films, les jeux vidéo et tout ça. Ils estiment que lorsqu'un enfant aujourd'hui, dans le monde occidental, arrive à 18 ans, aux États-Unis, disons, d'accord, aux États-Unis, ils estiment qu'à 18 ans, ce jeune a déjà vu 80 000 meurtres à la télé, dans les films ou en jeux vidéo. 80 000 meurtres. Et c'est vrai que quelque part, on rend... Bon, je pense qu'on est tous coupables, on regarde tous des films, du moins, moi je suis coupable, quelque part. Mais c'est vrai qu'on rend ainsi le meurtre quelque chose d'assez routine. Intéressant. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de statistiques sur les meurtres. Revenons au commandement. Exode 20, 13. Tu ne tueras point. Alors, ce que nous voulons essayer de faire ce matin, c'est de comprendre ce commandement. De comprendre ce commandement, tout simplement. Alors, je vous suggère 6 pistes de réflexion et on va le faire en posant des questions aujourd'hui, d'accord? J'aimerais poser 6 questions, essayer de répondre à ces questions. Alors, bien sûr, ce n'est pas possible dans le temps qu'on a d'aborder tout ça de manière exhaustive, en détail, mais j'espère vous donner le nécessaire pour que nous comprenions la pensée de Dieu à l'égard du meurtre et de la mort, d'accord? Alors, première question. Comment comprendre le 6e commandement? Comment comprendre le 6e commandement? Alors, premièrement, regardons le verbe. Tu ne tueras point. Alors, c'est intéressant qu'en hébreu, il n'y a en fait que 2 mots ici. 2 mots. C'est un des commandements les plus courts. Et littéralement, on pourrait dire pas tuer. Pas tuer. Mais voilà justement où se situe le problème, parce que cette traduction est problématique. Le mot choisi par la plupart des traducteurs dans nos Bibles, « met tuer »,« tu ne tueras point », et donc donne l'impression que ce commandement interdit toute forme de mise à mort. C'est l'impression qu'on peut avoir. Et de ce fait, cette traduction du commandement « tu ne tueras point » est devenue le cheval de bataille des objecteurs de conscience et des non-violents qui disent « ah, on ne devrait jamais tuer, point à la ligne ». Jamais d'exception. Alors, la langue hébreu possède plusieurs mots pour décrire l'idée de tuer. Ici, c'est un mot c'est le mot rassa, d'accord? Rassa en hébreu. Et rassa signifie presque sans exception donner volontairement ou involontairement la mort à un autre homme. L'intention du texte est claire ici. Celui d'un meurtre personnel par vengeance, par rancune ou par négligence. Ce mot est quasiment systématiquement utilisé pour décrire l'idée de tuer avec violence préméditée et délibérée. Alors ceci est important à comprendre, car dans la Bible, et vous allez peut-être être surpris aujourd'hui, il y a certaines formes de mise à mort qui sont autorisées par Dieu et même prescrites. On y arrive. Donc, on a vu le verbe tuer. Deuxième sous-point, voyons le contexte précédent. Le contexte précédent. Souvent, on apprend à comprendre un texte qui est compliqué ou qui n'est pas 100% clair par son contexte. Alors, si on recule un petit peu, regardez déjà le commandement juste avant. Vous vous rappelez, on l'a vu la semaine dernière. Et là, il dit au verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors, Dieu donne une bénédiction, hein, on l'a vu la semaine dernière. Si tu honores tes parents, parlant du pays d'Israël, il allait leur donner une longue vie dans le pays. Et on avait vu qu'une des raisons que la Babylonie est venue prendre Israël, eh bien, c'était parce qu'ils n'avaient pas honoré ce commandement. Bref, ce qui est intéressant, on l'a aussi appliqué parce qu'il est repris dans Éphésiens 6, on l'a appliqué à notre propre vie. Obéir à nos parents va nous donner une sorte de plus longue vie, hormis les accidents, etc. Ce qu'on veut simplement souligner ici, c'est que Dieu promet une longue vie dans le pays pour ceux qui honorent leur père et leur mère. Un homme n'a pas le droit de raccourcir la vie d'un autre homme, surtout si Dieu promet de la prolonger. Je me prends pour qui? Pour moi, raccourcir ce que Dieu décide de prolonger. Donc ça, c'est le contexte vraiment immédiat. Mais reculons au premier commandement. Très intéressant, le premier commandement. Là, on le voit au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Déjà, on l'a examiné, mais je révise. Et surtout dans le contexte de notre commandement aujourd'hui, cela veut dire que tu n'as pas le droit de te poser ou de te positionner en tant que Dieu sur ton frère, et tout particulièrement en prétendant disposer toi-même de sa vie. Si toi, tu te donnes le droit d'écourter la vie de quelqu'un, tu te places en tant que Dieu dans sa vie et tu lui dis « maintenant ta vie doit arrêter ». Donc tu viens de violer le premier commandement aussi. Voyez-vous, et on usurpe la place de Dieu, tu décides de sa mort, ce n'est pas de mon recours. Car il dit qu'il n'y a qu'un Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a qu'un Dieu. Donc de prendre la vie de quelqu'un d'autre veut dire que je prends la place de Dieu. Et cela est si grave, et on va le voir dans quelques instants, c'est tellement grave aux yeux de Dieu que l'Ancien Testament prescrit la peine de mort pour cet acte. Dieu seul est le Seigneur de la vie et le Seigneur de la mort. Point. Il n'y a pas de débat possible par rapport à cela. Ce commandement, donc, est un commandement de protection. Il est là pour protéger les hommes de celui qui veut usurper le rôle de Dieu à son égard. C'est un commandement qui nous protège. Dieu est bon envers nous et avant sa création. Il nous protège, mes amis. Et on le sait parce que la peine est drastique si tu choisis de ne pas l'obéir. C'est un des droits basiques de l'homme, c'est le droit de la vie. Le droit à la vie. Mais c'est des choses encore plus claires si maintenant on va au contexte, troisième point, le contexte suivant. Allez avec moi, là c'est obligé, hein, vous devez vraiment prendre vos billes parce que j'aimerais que vous voyez ça. Un chapitre plus loin, Exode 21, d'accord ? Et là, l'idée de préméditation ressort très très clairement. On est dans Exode 21 et le verset 12. Regardez ce que le texte dit. « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Un truc qui est bien avec la Bible, c'est que d'habitude, c'est clair. Là, je crois que c'est plutôt clair. Maintenant, il explique, regardez, verset 13. « S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. » Vous voyez, on voit très très clairement ce qui se passe ici. Au verset 13, il y a quelqu'un qui tue quelqu'un accidentellement. Il ne lui a pas dressé d'embûche, nous dit le texte. D'accord ? Il n'y avait pas de préméditation. Ce n'était pas une colère préméditée pour le faire tuer. C'était une mort accidentelle, peut-être un accident de voiture, je ne sais pas. D'accord ? Là, il lui dit, ils ont établi ce qu'on appelle des villes de refuge. Cette personne pouvait aller s'échapper et être sain et sauf dans cette ville pendant qu'on faisait une enquête pour être sûr qu'il n'y avait pas de préméditation. C'était pour protéger la vie de la personne qui aurait tué quelqu'un de manière innocente, non préméditée. Mais au verset 14, la chose change. « Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant de la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. » Là, il y a préméditation. Lorsqu'il y a préméditation, même s'il essaie de se réfugier le dimanche matin dans une église, tu le juges. Très intéressant. Regardez avec moi Deutéronome 19. Les 10 commandements sont repris dans Deutéronome 5. Et là, on a le contexte suivant à Deutéronome 5. On est dans Deutéronome 19. C'est très, très clair. On va lire à partir du verset 1. Je vais simplement donner quelques commentaires. C'est tellement facile à comprendre, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais regardez. Deutéronome 19, 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu auras chassé, que tu habiteras dans leurs villes et leurs maisons, tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne possession. Donc, dans le pays que les Israéliens allaient prendre, il devait y avoir trois villes. Verset 3. Tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Et il sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ses villes. Donc c'était ce qu'on appelait des villes de refuge. Cette loi s'appliquera au meurtre qui s'enfuira là, au meurtrier qui s'enfuira là, pour sauver sa vie lorsqu'il aura, regardez bien, involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Alors, il donne un exemple en plus, regardez. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. Voilà, va aller couper du bois dans la forêt. La hache en main. Il s'élance pour abattre un arbre et le fer s'échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme qui lui donne la mort. Vous comprenez le scénario. Alors le problème, c'est que la famille de cet homme pourrait se dire « Non, moi je l'ai vu la semaine dernière, il s'est mis en colère contre lui. Moi je crois que c'était intentionnel. C'était sûr que c'était prémédité. » On pourrait comprendre la réaction de la famille. Mais lui sait très bien qu'il n'y avait pas de préméditation. Donc, il continue, verset 6, de peur que le vengeur de sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort. Donc, la Bible dit qu'il ne mérite pas la mort, c'était accidentel. Donc, c'est une ville pour se réfugier contre ceux qui pourraient tirer vengeance contre lui, qu'on pourrait comprendre humainement. Et il dit bien, puisqu'il n'était pas auparavant ennemi de son prochain. C'est pour ça que je te donne cet ordre, tu sépareras trois villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi les frontières, comme il a juré de tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qui t'a promis, tes pères, etc. 9. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là. Regardez, afin que, pourquoi ces trois villes ? Que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Parce que si tu vas maintenant, toi, te venger contre cette personne qui aurait accidentellement tué une autre personne, tu deviens toi-même coupable de meurtre. Car tu tues quelqu'un qui ne méritait pas la mort. Et ça, ce serait, selon le verset 10, répandre du sang innocent dans le pays. Ça, il ne faut pas faire. Verset 11. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain, par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer la mort. Donc voilà l'autre scénario. En fait, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas et tu le tues de manière préméditée. Mais tu te fais passer pour un innocent. Et donc, tu vas dans la ville de refuge et tu t'y réfugies. Tu dis, bah voilà, si je suis là-bas, bah, ils vont pas venir me tuer parce que je vais donner l'impression d'être innocent. Pratique. Verset 12. Les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Donc, la culpabilité est apparemment claire. Il essaye de s'enfuir pour se protéger. Non. Il doit mourir. Verset 13. Tu ne jetteras pas sur lui. Écoutez, c'est incroyable. Un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent et tu seras heureux. Mais regardez verset 15. La cour de justice. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il en soit. Un fait ne pourra établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant, et voici la cour de justice, les sacrificateurs et les juges, alors en fonction, et les juges feront avec soin des recherches. Voilà, c'est tout le côté de la justice. Il doit faire des recherches, comprendre, établir la culpabilité de l'un ou de l'autre. Les témoins, est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront et l'on ne commettra plus d'actes criminels au milieu de toi. Et donc, s'il y a des faux témoins et tu constates qu'ils témoignent faussement, eh bien, eux aussi doivent payer. Et verset 21. Deux fois, il répète ça, tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. L'ex Talion. Donc moi, je trouve ça absolument merveilleux, la Bible. Elle est tellement géniale. Parce que de nouveau, là, elle montre clairement qu'il y a une grande différence entre un meurtre volontaire et un meurtre involontaire. Et quand c'est involontaire, on protège Parce que c'était pour prémédité. Mais si c'était prémédité, là, on ne protège plus. Là, on doit appliquer la peine biblique. Et deux fois, ça je trouvais intéressant, deux fois il dit, tu ne jetteras pas de regard de pitié sur lui. C'est fort, vous trouvez pas? C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, vous savez. Moi j'ai l'impression que certains des crimes les plus abominables, bien les gens qui commettent les crimes, eh bien on va fouiller dans leur passé, on se dit, ben voilà, écoute, il était victime, il n'avait pas de père, pas de mère, il avait pas de ceci, pas de ceci, il était pauvre, et tout d'un coup, c'est une victime, il est pauvre, il est innocent, et après 5 ans, il sort. Tu te dis, mais t'en vas, est-ce que c'est juste ça? Surtout quand c'est clair et net. Enfin bref, là, on rentre sur mon petit dada, mais t'allez voir, ça, on y reviendra tout à l'heure, parce que la Bible a beaucoup à dire là-dessus. Deuxième question. Quel genre de meurtres sont condamnables dans la Bible? Eh bien, on l'a déjà vu, hein, mais on peut. Je ne vais pas le lire, mais dans Proverbes 6, 17 à 19, premièrement, répandre le sang innocent. Tuer quelqu'un pour tuer quelqu'un, c'est répandre le sang innocent, de commettre un meurtre prémédité, n'importe quel meurtre prémédité, c'est pas juste. Et ça inclurait le suicide. Parce que le suicide, c'est quoi? En fait, le suicide, c'est un meurtre contre soi-même. Je décide de terminer ma vie quand moi j'ai envie de la terminer, pas quand Dieu décide de la terminer. Donc ça, ce serait de répandre le sang innocent, de se tuer soi-même. Deuxièmement, de commanditer un meurtre. Commanditer un meurtre, ça c'est très intéressant. C'est pas vous qui tirez la gâchette. Mais par exemple, dans Actes 7, vous vous rappelez peut-être le plus grand apôtre de tous les temps, dont Dieu a fait grâce. Dans Actes 7, Étienne avait été lapidé. Et nous lisons au verset 58, « Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. » Donc c'était Paul, bien sûr, hein, plus tard. Et au verset 1 du chapitre 8, « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. » Et on sait très bien que Paul était coupable. Acte 22, 4, nous lisons ceci. Paul dit lui-même, « J'ai persécuté à mort cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes. » Alors, peut-être qu'il ne l'avait pas lui commandité, mais il avait approuvé ce meurtre, donc il était coupable. Dieu lui a fait grâce, mais il était coupable. Excusez-moi, là, ouais, ça c'était consentir un meurtre, ça c'était mon point, consentir un meurtre, commanditer un meurtre. Alors là, on le voit dans 2 Samuel, là vous connaissez parce que c'est peut-être un des meurtres les plus connus de toute la Bible. On est dans 2 Samuel 11 et vous vous rappelez que David, le roi David, au lieu d'aller à la guerre comme il devait y aller, eh bien il est resté chez lui ce jour-là et il a vu une femme qui se baignait parce qu'il y avait si vous êtes à Jérusalem, vous voyez que les toits de maison qui sont plats sont en pente descendante et donc lui depuis son palais pouvait voir, il a vu une femme en train de se baigner et donc il a été tenté et cette femme, ben, il l'a amenée, il a couché avec elle, elle est devenue enceinte. Et alors maintenant, il avait un gros problème, David. C'est le mari de cette femme, Uri. Alors il a fait venir Uri du champ de bataille, espérant qu'il allait, puisqu'elle n'avait pas vu sa femme depuis longtemps, coucher avec elle, pour qu'il puisse ensuite conclure et dire « Ah, c'est par lui, son vrai mari, qu'elle est enceinte. » Mais lui, il ne voulait pas, il était en période de guerre, donc il n'est pas rentré à la maison, et donc ça n'a pas marché, son complot. Et donc, finalement, il a décidé qu'il fallait se débarrasser de lui d'une autre manière. Et alors, dans 2 Samuel 11, 15, il écrivit dans une lettre à Joab, chef de l'armée, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Alors là, c'est clair. Assassinat prémédité. Il a commandité un meurtre, signé une lettre. David était coupable. Dieu lui a épargné la vie, mais il a pris la vie de cet enfant. Et il en a souffert toute sa vie de ce meurtre. Mais Dieu l'a pardonné. Psaume 32, le psaume 51, ce sont des psaumes de confession. Donc, quel genre de meurtres sont condamnables? Répandre le sang innocent, consentir un meurtre, commanditer un meurtre. Même s'associer à un groupe qui commet un meurtre. C'est intéressant, dans Proverbe 1, mon fils, verset 10, si tes pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dresse-nous des embûches, versons du sang. Tendons les pièges à celui qui se repose en vain à son intelligence. Il lui dit, n'y va pas. Attention, ne t'associe pas avec des gens qui pourraient commettre un meurtre. Regardez encore Deutéronome, très intéressant, je n'avais jamais vu ça avant cette semaine, Deutéronome 22. Mais qu'en est-il de la négligence? Est-ce que vous êtes coupable si quelqu'un meurt parce que vous avez été négligent par rapport à leur protection? Ben, la Bible donne un cas incroyable dans Deutéronome 22 et au verset 8, il est dit ceci. Si tu bâtis une maison neuve, voilà, tu vas construire une maison, et vous savez que, comme je viens de le dire, les maisons là-bas, souvent, avaient des toits plats, et là, on pouvait vivre sur ces endroits le soir et utiliser cet espace pour un espace de vie. Alors il dit, si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Hyper intéressant ce petit détail. Quand tu construis une maison, si tu négliges de mettre une balustrade autour et qu'un jour quelqu'un tombe et se tue, tu es coupable par négligence. Donc de nouveau, la Bible est extrêmement précise et détaillée par rapport à ce commandement. Numéro 3, troisième grand point. La Bible, alors voici la grande question, préconise-t-elle la peine de mort? Alors là, c'est un débat chaud aujourd'hui. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'on ne peut même pas devenir, un pays ne peut pas rentrer dans l'Union européenne s'ils ont encore la peine de mort dans leur loi. Il faut l'abolir. C'est la seule manière de pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Alors, voyons ce que la Bible dit à ce sujet, d'accord? Commençons au début, Genèse 9, verset 6. Genèse 9 et verset 6. Peut-être on va commencer au verset 5, sachez-le aussi, donc c'est Dieu qui parle à Noé, après le déluge, et il dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, qui est son frère. Verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, virgule, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Je relis. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, donc si quelqu'un tue un homme, prémédité, on l'a déjà vu, mais on va le revoir. Regardez, c'est le détail. Par l'homme, son sang sera versé. Par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Alors, si quelqu'un commet un meurtre, l'homme, doit verser son sang. Ça, c'est la première instance claire et nette sur la peine de mort dans la Bible. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi? Pourquoi la peine de mort? Regardez ce qu'il dit le verset. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car, raison, Dieu a fait l'homme à son image. La raison, c'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 26 et 27. Dieu a mis une empreinte sur l'homme. Certains des traits qui existent en Dieu se répercutent un petit peu en nous. L'homme, il y a quelque chose de Dieu en nous. Alors, on n'est pas des dieux, attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais dans notre morale, dans notre vie, nous sommes empreints de l'image de Dieu. C'est ce qui nous différencie des animaux, par exemple. Et ce qu'il dit ici, c'est que le meurtre est donc une attaque personnelle sur la dignité du Créateur. Le meurtrier devient un preneur de vie, le destructeur de l'image de Dieu. Moi, je ne sais pas si on peut saisir complètement là ce qui se passe. Nous, on perçoit souvent le meurtre comme une peine infligée sur la victime, sur la famille, sur les amis et voire sur la société. Alors c'est vrai, mais dans la Bible, le premier mal du meurtre, c'est contre Dieu. C'est contre Dieu. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc nous devons accepter les autres comme étant une créature de Dieu. L'assassiner veut dire ignorer la valeur de cette personne aux yeux de Dieu. Dieu l'a créée. Alors c'est vrai que nous, la peine capitale dans Genèse 9 n'est pas donnée en premier de manière préventive pour diminuer le crime dans un pays, bien que c'est vrai. Non, parce que le meurtre détruit l'image de Dieu chez l'homme. Et c'est intéressant que dans Jacques 3, 9, nous apprenons qu'on n'a rien à changer par rapport à l'image de Dieu en nous. Jacques 3, 9 dit « Par elle nous bénissons le Seigneur, par notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, notre langue, fait à l'image de Dieu. » Tous les hommes, aujourd'hui, sont encore faits à l'image de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu voit en nous, dans sa création humaine, qui est son image. Et donc voilà la première raison pour la peine de mort. Parce que ça porte atteint à Dieu et à son image en l'homme. Deuxième chose qu'on voit ici, c'est la légitimité de la peine de mort. Alors c'est intéressant. Pour pouvoir mettre en pratique la peine de mort dans l'Ancien Testament, il y avait des règles. Et on l'a déjà vu. Pour un moment, il fallait des juges. On l'a vu tout à l'heure dans Deutéronome 19. Des juges qui faisaient des recherches avec soin. C'est intéressant, dans Deutéronome 16, 18 et 19, et dans Nombre 35, 31 et 33, il est dit qu'il ne faut jamais donner des présents ou des pots de vin aux juges. Ouais. Deuxième chose, on voit que la peine de mort doit être donnée par l'État. Alors à l'époque, c'était une théocratie, donc c'était ceux qui étaient les leaders de cette théocratie. Mais même dans Romains 13, dans le Nouveau Testament, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc il dit, voilà, les autorités gouvernementales sont de Dieu. Et très intéressant, au verset 4, il dit « les magistrats ». Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Les juges, magistrats, sont en fait là pour notre bien. Ah bon? Si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée en tant que serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Ouais, mais t'as voir, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus la peine de mort. » Alors moi, je pose tout simplement la question, à quoi sert une épée? Quand la Bible dit que les magistrats sont serviteurs de Dieu et ils utilisent, et pas en vain, l'épée pour exercer la vengeance et punir celui qui le fait le mal, je vous pose tout simplement la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec une épée? Est-ce qu'on donne une fessée? Ça sert à quoi une épée? À l'époque, c'était pour trancher les têtes, mes amis. C'est aussi simple que ça. C'était la peine capitale. Et là, Paul parle du gouvernement romain en plus ici. C'est ça qui est incroyable. C'était un gouvernement quelque part ennemi des Juifs. Ben, il a dit, ben non, ben ils ont l'autorité. Est-ce que ça veut dire qu'ils font toujours juste? Non. Est-ce qu'ils se trompent? Oui. Mais ils ont quand même cette autorité. 1 Pierre 2,14. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Vous savez, quel est le but premier de l'État? De nous punir quand on fait le mal. Et deuxièmement, de nous féliciter ou nous approuver quand on fait le bien. Alors quand vous ne faites pas flasher par le radar, le gouvernement vous applaudit. C'est bien. Je ne vous donne pas d'amende. Parce que vous avez respecté la vitesse. Mais quand vous faites flasher, vous avez une amende de 350 balles, c'est l'État qui fait son rôle. Elle punit le malfaiteur pour protéger les vies, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est le but. C'est intéressant. Donc, la légitimité se voit par l'utilisation de juges, par l'État. Troisièmement, par des témoins. Ça, on l'a vu aussi tout à l'heure, dans Nombre 35, Deutéronome 17 et 19, il fallait au moins deux témoins. Regardez ce petit verset incroyable dans Ecclésiaste 8 et le verset 11. Autre problème que nous avons avec notre système de justice aujourd'hui, il n'est pas assez rapide. Regardez Ecclésiaste 8, 11. 8, 11 dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a des peines pour des malfaiteurs clairs et nets, souvent ça prend des années avant que le jugement est effectué. Et puis il y a une telle distance entre le crime et le problème, il n'y a plus aucun sens. Et la Bible dit il faut que ça soit rapide pour que clairement on voit le lien entre le crime et la punition. Et si on fait ça, les gens auront peur. Et les gens feront moins de crimes. C'est ce que la Bible dit. Autre chose, c'est qu'il faut être sans pitié. Vous dites, mais c'est cruel. Non, c'est juste, très différent. Deutéronome 19, on l'a lu tout à l'heure, mais moi, c'est ce verset, c'est le verset qui m'étonne le plus. Hein. Il dit, tu ne jetteras, verset 13, hein. Deutéronome 19, 13, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Attendez voir, s'il est coupable, il est coupable. C'est prémédité, un meurtre prémédité. Il savait. Il l'a fait quand même, il s'est fait choper. N'aie pas pitié, fais ton travail. Vous dites, c'est cruel. Non, c'est pas cruel, c'est juste. Ça nous protège. Ça nous protège. D'autres viendront moins vite faire le mal. Et un autre petit verset absolument génial. Il y en a tellement. Puis là, je réalise que j'ai... Regardez, Esther. Je cherche Esther dans ma Bible et je ne la trouve plus. Où es-tu, Esther ? Elle est où, Esther ? Rappelez-moi où est Esther. Ah oui, voilà, je viens de trouver Esther. Merci, Esther. Esther 7:10. Alors, vous rappelez que il y a Haman, très mauvais. Il voulait tuer tous les Juifs. Le roi apprend de ce complot. Esther 7, verset 10, l'on pendit Haman au bois. Donc Haman a été pendu par ordre du roi pour avoir comploté le meurtre des Juifs. Regardez ce qui se passe, qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Très intéressant. Vous le savez très bien, quand à la télévision on entend un crime avec une sentence, mais qui est moindre, qui est rien du tout, on a un sentiment dans le cœur d'injustice. Mais là, quand la justice, quand la punition est conforme au crime, et c'est rapide, il y a le sentiment de justice qui surgit de notre cœur, et là, la colère s'apaise. Et ça, c'est un des grands problèmes avec notre système de justice aujourd'hui. La colère souvent ne s'apaise pas parce que la justice n'a pas été rendue justement. C'est radical, la Bible, vous ne trouvez pas ? Aïe, 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 aïe. Alors, la légitimité de la peine de mort se voit aussi dans le Nouveau Testament. Alors, bon, il y a plusieurs... juste un verset qui est vraiment intéressant. Regardez avec moi dans Actes 25, 11. Est-ce que Paul croyait dans la peine de mort ? Alors là, vous êtes époustouflés par ce petit verset, d'accord ? Dans Acte 25 et le verset 11, Paul se fait arrêter et il apparaît devant... il est devant un gars qui s'appelle Festus. Il est en train de juger, d'accord ? Juger. Et Paul dit ceci dans Acte 25, 11, il dit... verset 10. « Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Et ensuite il dit ceci, si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. C'est Paul qui dit ça. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux, j'en appelle à César. C'est ce qu'il est en train de dire ici, je crois à la peine de mort. Je pense que c'est juste. C'est Paul qui dit ça, l'apôtre Paul. Je pense que c'est juste. Et si je dois mourir parce que je mérite la peine de mort, j'accepte. Mais si c'est faux, j'accepte pas. Il faut que ça soit vraiment juste. Alors, y a-t-il des instances où il est possible de tuer sans pour autant être coupable de meurtre? Alors là, je vais juste brièvement vous dire, on a le droit de tuer des animaux pour manger, par exemple, dans Genèse 9.3. Donc, si on tue un animal pour manger cet animal, on a le droit, la Bible dit. Nous pouvons tuer, bon, c'est peut-être pas bien dit comme ça, mais si on tue quelqu'un accidentellement, on n'est pas coupable de meurtre. Deutéronome 19.5, on a vu. Petit verset intéressant. Que se passe-t-il si quelqu'un vient chez vous la nuit, par exemple, et rentre chez vous pour voler quelque chose? Et alors, est-ce que vous avez le droit, par exemple, de sortir un couteau de cuisine et tuer cet homme? Allons voir ce que la Bible dit. Exode 22. Regardez, c'est absolument génial. Chapitre 22. Verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 40 agneaux pour l'agneau. Donc, si quelqu'un vient dans votre ferme, parce que vous avez des bœufs et des agneaux chez vous, et il vous vole ces agneaux, eh bien, il les tue, il doit vous les restituer beaucoup plus. D'accord ? 2. Verset 2. Mais si le voleur est surpris, dérobant avec effraction. Donc là, il rentre et il casse la fenêtre. Enfin, peut-être pas là, s'il veut des vaches, mais disons, on se comprend, d'accord. Il vient, il veut voler un bijou, une montre, votre montre Rolex que vous avez reçue de votre arrière-grand-père, d'accord. Effraction, et qu'il soit frappé et meurt. Vous êtes là, vous sortez le couteau, clac, vous le tuez. Et il meurt. Regardez ce qu'il dit. On ne sera point coupable de meurtre envers lui. C'est l'autodéfense. La Bible nous donne le droit de protéger nos biens, ça on va le voir dans les prochains commandements. On a le droit de protéger nos biens, nos familles, notre femme, notre mari, nos enfants. Mais, verset 3, si le soleil est levé, donc ça c'est la nuit. Alors la nuit à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de lumière et tout ça. Donc voilà, tu le tues, ok? Ok, mais si le soleil, ça veut dire que tu peux voir maintenant. On sera coupable de meurtre envers lui. Donc, c'est intéressant. L'idée ici, c'est que si tu le vois venir, d'accord, c'est pas une surprise, tu le vois venir, tu as le temps d'appeler la police peut-être, ou de partir, fais ça, sinon tu seras coupable de meurtre. Parce que là, tu prémédites. S'il vient, attention, là, il y a une sorte de préméditation là, mais il continue, regardez. Ou bien, s'il vole quelque chose et il repart, et toi tu le suis, et tu le vois, maintenant c'est 5-10 minutes plus tard, t'es dans la rue, et tu prends ton couteau, et pouf, il rentre dans son dos et tu le tues. Là, non. Là, t'as pas le droit selon ça, parce que là, ce serait un meurtre, ce serait prémédité, c'est pas infraction immédiate. Est-ce que vous me suivez? J'ai vu beaucoup de films, hein, vous trouvez pas? Ah, Indiana Jones, hein, vraiment, alors là. Et ensuite, il faut suivre. Tout ça pour dire que c'est intéressant que la Bible nous dit qu'il y a des instants, c'est la préméditation, c'est ça. Il faut faire appel à la justice. Maintenant, s'il n'y a pas la possibilité de faire appel à la justice, quelqu'un est là, tu le vois chez toi la nuit, tu te lèves, tu le tues. C'est comme ça. Et je pense aussi que nous pouvons être sans culpabilité lorsque nous sommes soldats dans certaines guerres nationales. Et là, je dis parce que justement dans Deutéronome 20, et là, je ne vais pas avoir le temps de vous le dire, mais vous pouvez lire. Dans Deutéronome 20, c'est intéressant qu'il donne ici les règles de guerre, ou les règles de la guerre. Il y a des règles à observer. Et puisqu'il y a dans Deutéronome 20 les règles pour la guerre, alors regardez verset 1, « Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu... » Voilà, donc il dit, ben là, quand tu vas en guerre, ça implique que parfois il y a des guerres. Des guerres, par exemple, pour défendre ton pays. Si un pays malfaiteur vient pour envahir ton pays, est-ce que tu as le droit de te défendre? Oui, Romains 13 nous dit que l'État peut protéger, doit nous protéger. Donc, il y a au moins ça comme guerre juste, on pourrait le dire ainsi. Mais je trouve intéressant, parce qu'il dit au verset 10 de ce même chapitre, « Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. » Donc, il y avait des règles. Il y avait « Essayons de résoudre notre conflit par la paix en premier. » Intéressant, et même, il y a un petit détail au verset 19, même si tu envahis un pays où il y a une guerre juste, disons, tu n'as pas le droit de détruire les arbres fruitiers avec une hache, parce que ça, c'est pour la nourriture. Ça, c'est au verset 19. Écoutez, si vous êtes intéressé sur le sujet des guerres, j'ai un petit bouquin qui s'appelle « La réflexion chrétienne sur la guerre », que j'ai écrit il y a pas mal d'années en arrière. Je crois qu'il y a plusieurs copies, mais si vous voulez poursuivre toute cette étude de la guerre, c'est très intéressant. Vous pouvez aller voir Anne-Marie tout à l'heure. Je continue juste le prochain point, le numéro 4. Le numéro 4, Jésus, comment comprenait-il le sixième commandement? Là, maintenant, il faut que j'avance un petit peu plus vite. Allez avec moi dans Matthieu 5. Alors là, ça fait très très mal, d'accord? Matthieu 5. Restez encore avec moi 5 minutes, d'accord? Mais regardez ce que Jésus dit ici. Vous avez, verset 21, Matthieu 5, 21. Vous avez appris... Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. » Donc, il cite le commandement. Là, bien sûr, il parle de préméditation. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement et que celui qui dira à son frère « Raca », abruti, ce serait une manière de le dire, mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. » Alors je trouve très intéressant ce que Jésus fait ici. Jésus sait très bien que très peu de gens vont en fait violer le sixième commandement pour du vrai. D'accord? Mais Jésus affirme ici que le désir du meurtre est inscrit dans le cœur de tout homme. Et c'est ce qu'on a vu dans la loi de l'Ancien Testament. C'est la préméditation. C'est quoi une préméditation? Ben avant même de l'acte de tuer, tu as déjà décidé de tuer dans ton cœur, donc tu es déjà meurtrier. De tirer la gâchette, c'est simplement l'aboutissement de l'acte prédéterminé dans ton cœur. Et Jésus va, il recule de l'acte et il va directement au cœur. Il dit, t'es coupable. T'es coupable. Il vient de définir tout le but de la loi dans l'Ancien Testament. Que le vrai problème, c'est le cœur humain. C'est ça où il y a le meurtre. Tout commence dans le cœur et c'est ce qu'il avait dit dans Matthieu 15, n'est-ce pas, au verset 17. Il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, mais est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui souille l'homme, c'est le cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, et numéro 2 sur la liste, les meurtres. Parce que le meurtre commence avec la mauvaise pensée dans le cœur. Les adultères, les débauches, les vols, etc. Mais oui! C'est ça le problème, c'est le cœur. Même dans l'Ancien Testament, c'était le cœur. Et 1 Jean 3, 15 dit « Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Allez voir. Chrétien, écoute bien ce qu'il dit. Premièrement, si tu hais quelqu'un, tu le haïs, tu le hais. Si tu le hais, tu es un meurtrier. Et en plus, il dit, si tu hais quelqu'un, tu n'es probablement pas chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas haïr quelqu'un. Ce n'est pas possible, c'est ce qu'il dit. Vous êtes un meurtrier et vous n'avez pas la vie éternelle demeurant en vous. Un chrétien pardonne. Un chrétien ne hait personne. Et si tu hais quelqu'un, est-ce que tu es vraiment chrétien? Parce que la haine pour quelqu'un, c'est là le début du meurtre. C'est le cœur le problème. C'est le cœur. Alors voilà ce que Jésus disait. C'est simple, mes amis. Alors tout d'un coup, ce commandement, ce sixième commandement, mais oui, dis donc, il est applicable à qui exactement? Ouais, tous ces gens qui tuent des gens, mais c'est eux qui devraient arrêter. Jésus nous dit, regarde bien ton cœur, mon ami. Nous sommes tous coupables, et moi le premier. On est tous coupables. La seule grâce, c'est que nous n'avons pas tiré la gâchette. Mais dans notre cœur, je suis sûr qu'à plusieurs reprises, on l'a peut-être tiré. Une fois, la femme de Billy Graham, on lui a posé une question à la télévision. La femme de Billy Graham, on lui a dit, est-ce que vous avez déjà contemplé le divorce? Elle a dit, non, jamais. Seulement le meurtre. J'ai trouvé assez amusant comme réponse. Alors, elle blaguait, bien sûr. Mais on peut tous être tentés à un moment donné. La haine dans notre cœur peut vraiment faire des dégâts. Mais écoutez, comment appliquer ce commandement au sujet des dix aujourd'hui? Je vais simplement les mentionner parce que je n'ai pas le temps de tous les voir et je savais que le sujet serait un petit peu trop grand aujourd'hui. Mais l'avortement, c'est un sujet d'éthique important. Écoutez, je vous pose une question, d'accord? Faites attention avec ce que vous allez répondre. Le père, un scénario, le père a une maladie sexuellement transmissible. Sa femme a la tuberculose. Ils ont 4 enfants. Le premier est aveugle. C'est vrai, ce que je suis en train de dire. Le deuxième est sourd. Le troisième a la tuberculose. Et le quatrième est mort à la naissance. La femme est de nouveau enceinte. Vous lui conseillez quoi? D'avorter ou pas? Si vous avez répondu oui, vous venez de tuer Beethoven. C'est intéressant. La question de base, est-ce que le fœtus est humain? C'est ça la question. Est-ce que le fœtus est humain? Il y a beaucoup de passages qui en parlent. David a dit ceci dans le psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Si le fœtus n'est pas humain, qu'est-ce qu'il écrit ici? Ça n'a aucun sens. Jérémie 1 aussi, il était nommé prophète dans le sein de sa mère. Jean-Baptiste a été touché dans le sein de sa mère, enfin rempli du Saint-Esprit, c'est intéressant, c'est ce que nous dit Luc 1. Enfin, j'ai un message sur l'avortement. Ça pose un problème. La Bible dit que Jésus était le Fils éternel de Dieu qui est devenu un homme. L'incarnation est par définition. L'incarnation, c'est quoi? C'est que Dieu devient un homme, n'est-ce pas? Dieu fait homme. Alors, lorsque Jésus était dans le sein de sa mère, est-ce qu'il était homme ou pas? Parce qu'il n'était pas humain, il était quoi pendant 9 mois alors? Il n'était pas le Fils de Dieu? Bien sûr qu'il était humain. Enfin, l'euthanasie, c'est pareil. Est-ce que nous avons le droit d'arrêter une vie parce qu'elle nous dérange? Intéressant en grec, euthanasie, bon, thanatos, mort. C'est la bonne mort. Quelqu'un décide de ta mort. C'est la bonne mort, ça. Non, je ne crois pas. Non, pas bibliquement. Je voulais parler un petit peu des guerres justes, mais j'en ai déjà un petit peu parlé. Et le suicide aussi, j'en ai déjà parlé. Comment on applique? Comment on termine ce commandement? Eh bien, je pense que nous devons aimer notre prochain et vouloir à tout prix protéger la vie d'autrui. On veut défendre l'innocent. Nous devons repousser, résister toute pensée et de passion qui pourrait nous mener à haïr autrui et à vouloir peut-être un jour, commettre un meurtre. Nous devons protéger nos cœurs. Nous devons jamais laisser la colère prendre le dessus, Ephésiens 4. Nous ne devons jamais tirer vengeance personnelle, Romains 12. Et nous devons en fait refuser querelles et coups et blesser autrui qui pourraient mener à quelque chose de gravissime. Moi, je pense que ce commandement prône une révérence pour la vie, la protection de la vie. Et Dieu est drastique par rapport à cela. Mais vous dites, mais John, moi je suis coupable. Peut-être vous avez déjà tué quelqu'un, c'est possible. Peut-être que vous avez déjà avorté quelqu'un, ça aussi c'est possible. Beaucoup de gens ont avorté, vous savez. Vous dites, mais John, moi je suis coupable. Oui. Oui, vous êtes coupable, mais vous savez, en Christ, vous êtes pardonné. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. David l'a écrit comme ceci. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Mon ami, en Christ, tu es totalement pardonné. Ton péché est pardonné, que ce soit un péché de colère ou de meurtre, il te pardonne. Il te pardonne et il te fait grâce. Parce que Christ a donné sa vie pour toi. C'est intéressant que Christ est mort par un meurtre injuste. Nous sommes pardonnés de meurtre par un meurtre. C'est quand même incroyable. Inclinons-nous quelques instants et faisons le point. Oui, c'est vrai, on est tous coupables, vous savez. Notre cœur est le problème. Notre cœur, cette colère, cette amertume, cette haine qui peut en découler. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de nous pardonner. Je sais que nous sommes pardonnés en Christ pour nous qui te connaissons, mais aujourd'hui, nous t'amenons nos cœurs, nos fardeaux. Ô Seigneur, remplis nos cœurs d'amour, de compassion, de bonté envers les autres. Et s'il y a quelqu'un, peut-être aujourd'hui, que vous savez, il y a un problème, il y a de la haine, peut-être maintenant décidez que vous allez demander pardon à cette personne et pardonner cette personne. Mes amis, c'est dans l'Église, nos vies doivent être révolutionnaires. Nous devons être différents que tous les autres. Et s'il y a des gens qui t'ont fait du mal, eh bien, il faut tourner la page, mon ami. Et Seigneur, peut-être des femmes ont eu des avortements ce matin. Ô Seigneur, réconforte-les. Montre-leur qu'en Christ, elles sont propres. Elles sont lavées, elles sont pures en Jésus-Christ. Ô Seigneur, redonne-leur le regard de la louange et de l'adoration envers ce Dieu qui les pardonne. Ô Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons ce matin. Seigneur, merci. Écoutez, dimanche prochain, comme on continue, tu ne commettras point d'adultère. Alors on m'a dit, John, ce sera ou bien plein ou bien vide, d'accord? Alors j'espère que vous viendrez, d'accord? J'espère que vous viendrez, que ça pourrait être un sujet qui intéressera d'autres. On va parler de la sexualité. Et là, la Bible a beaucoup à dire sur la sexualité. Levons-nous ensemble.